Le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. La méditation que je voudrais apporter ce matin concerne toujours le pardon, car il y a tant de choses à dire. Mais je voudrais me limiter, si vous le voulez, au côté pratique du pardon. Autrement dit, comment pardonner. Nous avons vu de multiples facettes de ce merveilleux ministère du pardon, mais ce matin nous allons voir comment faire pour pardonner finalement. Comment passer à l'action. Et pour cela nous allons lire cette merveilleuse parole de Jésus sur la croix que vous connaissez tous, mais que nous allons méditer ce matin et découvrir dans cette parole de Jésus sur la croix dans Luc chapitre 23, versets 33 et 34. Luc 23, versets 33 et 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Nous allons essayer de découvrir dans ces paroles si merveilleuses de Jésus, ces paroles qui ont été la source de salut de multitudes et de multitudes, ces paroles que jamais homme n'a pu prononcer, ces paroles qui ont délivré des millions et des millions de gens. Il y a donc quelque chose de puissant dans ces paroles. J'aimerais retenir 5 pensées de ces paroles de Jésus qui nous aideront à mettre en pratique ce pardon et à savoir comment pardonner. La première pensée qui se dégage lorsque nous entendons cette parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il y a quelque chose de apparemment curieux. Jésus dit, Père, pardonne-leur, peut-être à ces soldats qui étaient là et qui ne faisaient qu'obéir aux ordres qu'ils avaient reçus, à tous ces ennemis qui étaient là. Mais il dit quelque chose qui va nous aider. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et là, il y a une première pensée très pratique pour nous. Comment pardonner? Pourquoi est-ce que bien souvent, nous avons de la peine à pardonner? Parce que nous ne cherchons pas à comprendre la situation de l'autre, de celui qui nous a offensés. Autrement dit, la première pensée qui va nous aider à pardonner, c'est en cherchant à comprendre l'autre qui nous a offensés. Et Jésus a compris cela, parce qu'il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Autrement dit, il a compris la condition de ceux qui lui ont fait du mal, et à cause de cela, son esprit de pardon a coulé plus facilement. Savez-vous une chose, mes chers amis, que nous pardonnerons beaucoup plus facilement si nous comprenons pourquoi l'autre a telle attitude négative à notre part. Si vous cherchiez un peu à comprendre la condition de l'autre, pourquoi l'autre, par exemple, est méchant à votre égard? Pourquoi l'autre vous dit telle parole méchante à votre égard? C'est parce que bien souvent, l'autre aussi a ses problèmes. L'autre aussi a des combats. lieu d'être obsédé par notre propre problème, il est bon aussi de comprendre l'autre. L'autre est aussi blessé, peut-être. Vous êtes d'accord avec moi? Il est blessé, c'est pourquoi peut-être il a une telle action, une telle réaction à votre égard. Et si nous comprenions cela, alors nous pardonnerions plus facilement. Vous êtes d'accord avec moi? Alors la première pensée qui se dégage de cette merveilleuse prière, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus a compris, a vu au-delà des actions l'attitude des gens, le cœur, la condition, les circonstances. Nous, nous voyons bien souvent l'acte, mais Jésus regarde derrière l'acte. Pourquoi quelqu'un agit de cette façon? Et si nous voulons, mes chers amis, si tu veux pardonner, tu dois chercher un peu à comprendre l'autre. Ne t'entête pas pour dire, mais c'est l'autre qui doit me comprendre. Tu risques d'attendre longtemps. Jésus n'a pas pardonné comme cela. S'il attendait que les autres le comprennent pour qu'il les pardonne, il attendrait encore jusqu'à présent. N'est-ce pas vrai? N'attends pas que les autres te comprennent. Commence à comprendre l'autre. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il aurait pu s'apitoyer sur son cas, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Il aurait pu s'apitoyer, mais voyons, mais pourquoi est-ce que vous avez une telle attitude à mon égard? Ce n'est pas chic, ce n'est pas gentil, ce n'est pas juste. Je suis vraiment déçu de vous. Jamais vous n'auriez dû faire de telles choses. Voyez le bien que je vous ai fait, et voilà le mal que vous me rendez. Il aurait pu s'apitoyer sur lui-même. Mais il ne l'a pas fait. Autrement dit, il ne cherchait pas à ce que les autres le comprennent, mais il avait une autre attitude. Il cherchait à comprendre les autres. Écoutez-moi bien, peut-être que tu as de la peine à pardonner à quelqu'un. Tu vas commencer à pardonner plus facilement à cette personne si tu cherches à comprendre un peu pourquoi il a agi à cet égard, à ton égard, de cette façon. Un jour, je lisais l'histoire d'un docteur dans le nord de l'Écosse. Il était docteur dans un village. Il était très bon docteur. Il avait de très bonnes qualités. Mais malheureusement, les gens du village lui reprochaient quelque chose. Qu'il était un peu près de ses sous. Qu'il était un peu avare. Et j'étais étonné, mais quand même, il est bon, il est bien, il fait bien. Mais quand un peu trop près de ses sous, trop avare. Et à cause de cela, il le rejetait un petit peu. Mais pourtant, il avait des merveilleuses qualités. Enfin, personne ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit d'autre. Mais un jour, ce docteur est mort. Et le jour de son enterrement est arrivé un train du sud. Et de ce train sont descendus plusieurs docteurs, plusieurs professeurs. Et les gens du village ont dit, mais qui est-ce ces gens? Et là, la vérité est venue à la lumière. Ces docteurs et ces professeurs étaient des gens que le docteur avait soutenus pendant toutes leurs études. Pendant des années, il avait payé toutes les études de ces jeunes gens. Et naturellement, quand on a plusieurs jeunes comme cela à pourvoir, il ne pouvait pas distribuer son argent inutilement. Il a paru avare, mais finalement, quand les gens du village ont compris pourquoi il était comme cela, ils lui ont pardonné plus facilement et complètement. Voyez-vous, lorsqu'ils ont compris pourquoi il avait agi de cette façon, alors ils lui ont pardonné. Et finalement, il n'était pas du tout ce qu'il pensait être, n'est-ce pas vrai? C'était même l'opposé de ce qu'il pensait. Bien souvent, nous nous faisons des idées sur ceux qui nous font du mal. De fausses idées. Ils sont peut-être même meilleurs que nous. C'est terrible ce que je vous dis. Ils sont peut-être même meilleurs que nous. Mais puisque nous ne cherchons pas à comprendre, naturellement, nous ne découvrirons jamais la vérité. Dites-moi, n'est-ce pas une pensée qui va nous aider à pardonner? En tout cas, ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai vu ça une fois. Sam, cherche à comprendre l'autre. Ne sois pas obsédé. Pourquoi est-ce qu'on me comprend pas? Voyez-vous, on tourne toujours autour de nous-mêmes. Je ne comprends pas qu'on ne me comprenne pas. On te comprendra jamais jusqu'à ce que tu comprennes l'autre. Et quand tu auras compris l'autre, on te comprendra aussi. Alors une première pensée, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a pardonné parce qu'il a cherché à comprendre la condition de l'autre. Voulons-nous le faire? Si nous le faisons, nous allons pardonner beaucoup plus facilement. Une deuxième pensée maintenant qui se dégage de ces paroles si lumineuses et si libératrice. La deuxième pensée est celle-ci. Nous pardonnerons plus facilement lorsque nous pardonnerons, nous, le premier. Jésus, sur la croix, a pardonné le premier. Il n'a pas attendu que les autres lui demandent pardon pour leur pardonner. Comment Jésus a-t-il pardonné? Il a pardonné le premier. Et maintenant, comment est-ce que nous pardonnons, nous? Oh, je veux bien lui pardonner, mais à condition qu'il vienne me demander pardon. Dis-moi, tu fais vraiment quelque chose d'extraordinaire quand quelqu'un vient te demander pardon? C'est la moindre des choses que tu lui pardonnes. Tu ne fais rien d'extraordinaire lorsque quelqu'un vient te demander pardon, parce que c'est lui qui a fait le pas qui coûte le plus cher. Certains d'entre nous, nous pensons que nous faisons quelque chose d'extraordinaire quand l'autre vient nous demander pardon et que nous lui pardonnons. Ce n'est pas toi qui fais l'acte le plus extraordinaire et l'acte qui coûte le plus cher, c'est l'autre. Mais, lorsque nous pardonnons le premier, sans attendre que l'autre vienne nous demander pardon, alors là, c'est nous qui faisons quelque chose d'extraordinaire. Car nous pardonnons sans que l'autre vienne nous demander pardon. Sans qu'il ait même conscience d'être pardonné. Nous pardonnons le premier. Ça, ceci révèle une qualité dans le pardon qui est divine. Amen. Mais vous ne faites rien d'extraordinaire si vous attendez que l'autre vienne vous demander pardon. Et ce qui est terrible, c'est que même à certaines personnes, on vient leur demander pardon et ils refusent même de pardonner. Ça, c'est encore le comble. C'est le comble. On vient leur demander pardon et en plus on refuse de pardonner. Et ces personnes se croient de bonnes chrétiennes par-dessus le marché. Et des chrétiens même remplis du Saint-Esprit. C'est une illusion. Jésus sur la croix, comment a-t-il pardonné? Il a pardonné le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le Si Jésus devait attendre le pardon des gens, il attendrait encore. Il attendrait encore. Avez-vous remarqué dans les évangiles qu'à aucun endroit nous voyons quelqu'un qui est venu demander pardon à Jésus, vraiment comme cela? Mais par contre, nous voyons quelque chose qui est extraordinaire, c'est que lui a pardonné à de multiples occasions. Il a pardonné le premier. Nous voyons par là qu'il n'a jamais attendu que les autres viennent lui demander pardon pour qu'il pardonne. Et c'est en cela qu'il y a une puissance merveilleuse dans le pardon de Jésus. Alléluia. Si tu pardonnes seulement lorsque l'autre vient te demander pardon, ton pardon est un triste pardon. Ton pardon ne coûte rien, car le vrai pardon coûte quelque chose. Notre frère a lu tout à l'heure, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voyez-vous, le pardon est en rapport avec l'effusion de sang, avec le sacrifice, avec l'esprit de renoncement. Et quand Jésus a pardonné, il était sur la croix, ne l'oubliez pas. Il se sacrifiait lui-même. Donc pour Jésus, le pardon a coûté quelque chose. Le pardon a coûté toute sa vie. Autrement dit, mes chers amis, le vrai pardon vous coûtera quelque chose. Le vrai pardon coûte quelque chose. Et cela nous coûte quelque chose de chercher à comprendre l'autre, n'est-ce pas ? Et cela nous coûte quelque chose de pardonner le premier. Ça vous coûte quelque chose. Et c'est ce qui vous coûte quelque chose qui aura de la valeur aux autres. Ne l'oubliez jamais. C'est ce qui vous coûte quelque chose qui sera apprécié par les autres. Mais un pardon bon marché qui ne vous coûte rien, ne libère personne et n'a aucune valeur aux yeux des autres. Mais quand votre pardon vous coûtera quelque chose, les autres le verront, le sentiront. Et ils seront touchés par cet esprit qui est l'esprit de la croix. L'esprit du sacrifice. Il a pardonné le premier. Écoutez-moi bien, chers amis. Ce n'est pas tellement ce que les autres vous font qui est important. C'est votre réaction à l'égard de ce que les autres vous font qui est importante. C'est votre réaction qui est importante. Ne dites pas, voilà tout ce qu'on m'a fait, voilà tout ce qu'on m'a fait. Mais nous tous, tout le monde nous fait quelque chose. Et on pense tous que son cas est plus grave que l'autre. Mais là n'est pas le problème aux yeux de Dieu. Cesse de gémir et dire, voilà tout ce qu'on m'a fait. Le point devant Dieu n'est pas là, car à tous il nous arrive quelque chose, n'est-ce pas vrai? À tous, tous on nous fait quelque chose. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui passes par la difficulté, la souffrance, le rejet, le mépris. Ne pense pas que tu es seul, tu n'es pas seul, tous passent par ce chemin-là. Le point important n'est pas là. Le point important est de savoir comment tu réagis dans cette condition, dans ces circonstances. Comment est-ce que tu réagis? Tu peux réagir positivement et tu peux réagir négativement. C'est à toi de choisir. Réagis comme le Seigneur. Pardonne le premier et n'attends rien des autres. Pardonne. Pardonne. Alléluia. Amen. Car le pardon est un don. Le pardon se fait par don. L'autre ne doit jamais mériter votre pardon. Nous sommes un peu spécialistes pour que l'autre mérite notre pardon, paye son pardon. Attends, oui, je veux bien te pardonner, mais il faut que tu pleurniches un peu plus que ça. Il faut que tu souffres un peu plus maintenant, puisque tu m'as fait souffrir. Oh, je veux bien te pardonner, mais pas tout de suite. Il faut que tu payes un peu ton pardon. Tu m'as assez fait souffrir. Doucement, doucement. Et on est là en train de se réjouir de ce que l'autre souffre. Et nous appelons ça pardon? Ce n'est pas cela le pardon de la croix. Le pardon de la croix est un pardon gratuit. Il nous coûte quelque chose à nous, mais on l'offre gratuitement aux autres. On n'exige rien des autres. Si vous exigez quelque chose de l'autre pour qu'il vous demande pardon, ce n'est pas le pardon de la croix. Vous n'exigez rien. Et vous pardonnez le premier. C'est un pardon gratuit. C'est celui-là qui a le plus de valeur. Vous voyez mon petit jeu de mots? Le pardon gratuit, c'est celui qui a le plus de valeur.
vous devez pardonner le premier. Ça, ça coûte quelque chose, n'est-ce pas? Mais c'est ça, le vrai pardon. Et Jésus nous a donné l'exemple. Alléluia. Une troisième pensée maintenant. Comment pardonner? En prenant la décision de pardonner. Et soulignez bien, décision. Lorsque Jésus était sur la croix, je pense qu'il n'a certainement pas joué avec ses sentiments. Vous savez, quand on est sur une croix, quand on souffre, on n'a pas toujours ces sentiments d'amour ou des bons sentiments. C'est plutôt la souffrance qui est là. Et si le Seigneur a pardonné à ce moment-là, c'est par un acte et une décision de sa volonté. Plus que par des sentiments émotionnels. Et c'est comme cela que nous devons pardonner. Écoutez-moi bien, ceci est très important. Comment pardonner en prenant la décision de pardonner? Car j'ai remarqué une chose, et je pense que vous êtes comme moi. En général, on a des sentiments de pardon quand on n'a personne à pardonner. N'est-ce pas vrai? Ah, quand on est dans notre bon jour et quand tout va bien, on a de merveilleux sentiments de pardon à l'égard de tout le monde. Concernant l'amour aussi, c'est la même chose. Oh, on a envie d'aimer tout le monde quand il n'y a pas de problème avec les gens. Mais le jour où il y a des problèmes, le jour par exemple où il y a une histoire avec quelqu'un, ces merveilleux sentiments de pardon n'existent plus. Il n'y a plus rien du tout. Alors qu'est-ce que nous faisons? Puisque je ne sens pas le pardon en moi, je ne pardonne pas. Et c'est là le problème avec beaucoup d'entre nous. Nous pardonnons lorsque nous sentons le pardon. Lorsque nous avons des sentiments de pardon. Mais vous savez, quand il y a un problème, moi je le vois. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec ma femme, mes enfants, avec quelqu'un d'autre, en général, je n'ai jamais ces sentiments de pardon. Je dois faire une chose, je dois prendre la décision de pardonner ou de demander pardon. Et en cela, le pardon nous libère du tout sentiment. Le pardon nous libère de tout sentimentalisme. Et vous prenez la décision de pardonner. Ce qui fait que vous pouvez pardonner à tout moment. Personne ne peut dire, ah, moi, non, je sens pas l'amour, le pardon en moi, je ne pardonne pas. Je ne veux pas être un hypocrite. Est-ce que vous n'entendez pas cela bien souvent? Mais qu'est-ce que vous révélez en disant cela? Vous révélez une chose, que vous vivez de sentiments. Et comme je le dis bien souvent, si vous vivez de sentiments, le sentiment toujours. Le sentiment toujours. Parce qu'un jour, vous avez des bons sentiments, et le lendemain, je ne dis même pas le lendemain, mais quelques minutes après, vos sentiments changent. Si vous vivez de sentiments, vous êtes esclave de vous-même. Quelqu'un qui vit de sentiments, selon la parole de Dieu, c'est un chrétien charnel. Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? On a dit beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais avant tout cela, c'est quelqu'un qui vit de ses sentiments. C'est quelqu'un qui est conduit par ses sentiments. Alors voyez-vous, un jour, quand il sent l'amour, il aime. Quand il ne sent plus l'amour, pouf, il vous fait la tête. Et encore, il justifie son attitude en disant, « Oh, tu sais, moi, je suis droit. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Quand je ne sens pas l'amour, je n'aime pas. Moi, je suis droit. » Voyez-vous, ces personnes se justifient encore par-dessus le marché et pensent qu'elles sont en ordre, alors que finalement, tout est en désordre en eux. C'est là que le pardon amène une merveilleuse délivrance. Sentiment ou pas sentiment, je prends la décision de pardonner. Et lorsque vous pardonnez, regardez votre montre aussi. Il y a des belles montres ici. Regardez votre montre. Et voilà comment vous devez pardonner. Tel jour, à telle heure, Au nom de Jésus, je pardonne à mon père, à ma mère, à ma femme, à mes enfants, à tel ami. Je prends la décision de pardonner. Et le problème est réglé une fois pour toutes. Amen. Voilà un point très important. Car beaucoup sont esclaves de leurs sentiments. Ils attendent des sentiments de pardon pour pardonner. Mais en général, ça ne vient jamais. Et vous risquez d'attendre longtemps. Naturellement, à nous le vouloir et à Dieu le pouvoir. Il est évident que ce n'est pas avec votre force que vous pouvez pardonner, nous le savons. Mais si vous ne voulez pas pardonner, Dieu ne vous donnera jamais la force de pardonner. Mais par contre, si vous prenez la décision de pardonner, vous aurez toujours la force de pardonner. Amen. Amen. Si bien que lorsque quelqu'un me dit « je ne peux pas pardonner », alors je pose plutôt la question à l'envers, je dis « non, c'est parce que tu ne veux pas pardonner. » Dieu donne toujours la force à celui qui veut pardonner. Mais vous devez quitter ce terrain mouvant des sentiments. Tu dois prendre la décision de pardonner. Et c'est ainsi que tu seras libéré. Et une fois que tu prends la décision de pardonner, tu ne dois plus jamais parler de cette situation. Car combien disent « Oh, mais j'ai pardonné. » Mais la semaine d'après, on papote encore sur le même problème. On rumine encore le même problème. Vous savez, parmi les chrétiens, il y a les ruminants et les rugissants. Les rugissants, ce sont ceux qu'on entend toujours. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Toujours en train de rouspéter. Puis il y a les ruminants, on ne les entend pas. Mais alors à l'intérieur, attention. Alors on ne les entend pas, ceux-là, mais ça rumine. Le pardon est une décision de la volonté. Chers amis, j'insiste là-dessus. Et si nous comprenons cela, nous pouvons pardonner du 1er janvier au 31 décembre. Et du 31 décembre au 1er janvier. Il n'y a plus d'excuses à ce moment-là. Parce que vous n'êtes plus esclaves de vos sentiments, vous prenez la décision de pardonner. Il n'est plus question de sentir quoi que ce soit. Il est question d'obéir et de se décider. Voilà comment nous devons pardonner. En prenant des décisions. Et lorsque la décision est prise, on ne revient plus là-dessus. Amen. On ne revient plus là-dessus. C'est terminé une fois pour toutes. Ça, c'est le vrai pardon. Parfois, il vaut mieux ne pas pardonner que de pardonner superficiellement. Comme beaucoup pardonnent. On vous pardonne lorsque la personne est avec vous. Mais par derrière, on papote encore sur vous. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est le mensonge. Ça, ce n'est pas le vrai pardon. Mais lorsqu'on a pardonné quelqu'un, le problème est réglé une fois pour toutes. On n'en parle plus. C'est terminé. Ça, c'est le vrai pardon. Ça, c'est le pardon qui libère. Vous n'écoutez pas vos sentiments. Le pardon est une décision de la volonté. Et vous verrez que si vous maintenez cette décision de la volonté, les sentiments changeront aussi petit à petit. C'est ce que j'ai remarqué. Au début, les sentiments sont toujours rebelles. Mais les sentiments doivent prendre la deuxième place. D'abord la volonté et ensuite les sentiments. Et si vous maintenez cette décision de la volonté, d'abord, vous dites « je pardonne ». La volonté dit « je pardonne ». Et les sentiments rouspètent derrière. « Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Regarde d'abord ce que tu ressens. Tu ressens pas le pardon, c'est un mensonge. » C'est comme ça que ça se passe. La volonté dit « non, je pardonne, j'ai pardonné ». Les sentiments disent « non, non, c'est pas vrai, regarde ce que tu ressens d'abord. » Toi, tu es un hypocrite, tu es un menteur. La volonté dit non, j'ai pardonné. Le pardon est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. peu importe ce que vous ressentez, vous avez pris la décision de pardonner. Alors au bout d'un certain temps, les sentiments vont commencer à changer. Ah oui, peut-être, oui, d'accord. Oui, je vois que tu as pardonné tout ça, mais tu sais, tu as pardonné à 50%. J'ai pardonné, un point c'est tout. Mais dis donc, tu t'en rappelles encore. Et peu importe, j'ai pardonné tel jour à telle heure. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, les sentiments vont changer. D'abord, ils rouspètent, et puis pour terminer, au bout de je ne sais pas combien de temps, la volonté dit « Alléluia, j'ai pardonné », et les sentiments vont dire après « Amen, c'est la vérité ». Et c'est ainsi qu'il y aura une merveilleuse harmonie entre la volonté et les sentiments, mais c'est toujours la volonté qui doit être en tête. Alléluia. Quatrième pensée. Comment pardonner en priant pour ceux qui nous ont offensés? Jésus a prié sur la croix, vous êtes d'accord avec moi? Père, pardonne-leur. Voyez-vous, c'était une prière. Et ceci est important, parce que bien souvent nous pardonnons, mais ensuite la personne sort tout à fait exclue de nos prières. Et nous disons, nous n'en voulons plus, maintenant c'est terminé. Mais ce n'est pas là le vrai pardon. Car lorsque l'ennemi reviendra pour mettre le doute sur vos décisions, vous devez le rencontrer dans un esprit de prière. Vous devez prier pour celui qui vous a fait du mal. Car vous ne pouvez pas prier et critiquer une personne en même temps. Avez-vous remarqué cela? Si vous critiquez quelqu'un, vous ne priez pas pour lui. Mais si vous priez pour quelqu'un, vous ne pouvez pas critiquer cette personne. Ce qui fait que lorsque l'ennemi revient, parce qu'il reviendra, pour dire, oh, tu vois bien, il y a ceci, il y a cela, que faut-il faire? Il faut dire, je prie pour lui. C'est mon frère, c'est ma femme, c'est mon enfant, je prie pour lui. Et quand l'ennemi entend cela, je vous assure, comment tu pries pour lui? Lui qui t'a fait tant de mal, lui qui t'a fait souffrir, tu pries pour lui? Je prie pour lui. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez. Ça, c'est le chemin de la victoire. Car beaucoup d'entre nous, nous prions, mais ces personnes sont tout à fait exclues de nos prières. Et si vous ne priez pas pour eux, alors d'autres sentiments vont venir. La prière sera comme une forteresse qui empêchera les mauvaises pensées de pénétrer dans votre cœur. Et la prière seule aussi vous donnera la force de pardonner. Amen. Car dans la prière, Dieu vous donnera la force de pardonner. Alléluia. Et plus vous prierez pour eux, plus le Saint-Esprit en vous vous donnera la force. Vous devez prier pour eux, les bénir. Attention. Si vous priez pour eux, vous ne devez pas les critiquer dans vos prières. Ça, c'est la maladie de plusieurs. Savez-vous qu'on peut critiquer quelqu'un dans sa prière? Condamner quelqu'un dans sa prière, savez-vous cela? Spécialement les dames qui prient pour leur mari pour qu'ils se convertissent. Oh Seigneur, tu vois ce mari, il est terrible. Il ne vaut rien du tout, il est méchant, il ne m'aime pas. Oh Seigneur, fais quelque chose pour lui. Qu'est-ce que c'est que cette façon de prier? C'est pas prier pour quelqu'un, ça c'est condamner quelqu'un. C'est accuser quelqu'un. Une prière comme cela ne sera jamais exaucée. Combien d'entre nous, dans nos prières, nous accusons la personne au lieu d'intercéder pour la personne? Et je raconte souvent l'histoire de John Hyde, le prieur, un missionnaire qui était aux Indes au siècle dernier. C'était un homme qui avait une puissance extraordinaire dans la prière. Il avait une telle sensibilité dans la prière que Dieu faisait des grands miracles au travers de lui. Un jour, il priait pour un pasteur de la région, là-bas où il était, qui était très froid et dont l'église était pratiquement morte. Alors il voulait que Dieu fasse quelque chose pour ce pasteur et son église. Et il a commencé à prier pour ce pasteur. Et dans sa prière, il était là. « Oh Seigneur, agis dans ce pauvre pasteur. Regarde comme il est froid. Regarde son église qui est morte. Regarde, Seigneur, tout ce qui ne va pas. » Voilà comme il priait. Et tout à coup, il entend une voix qui lui dit « Tais-toi !» Il a réalisé que quelque chose de grave avait été fait. Et le Seigneur lui a dit « Je ne t'appelle pas à accuser mes serviteurs, mais je t'ai appelé à intercéder pour eux. » Et il a dit « Mais Seigneur, pardonne-moi. Et comment veux-tu que je prie ?» Et Dieu lui a dit « Voilà comme tu dois prier. Relève plutôt les bonnes choses qui sont dans mon serviteur. C'est vrai, il y a certainement des choses qui ne vont pas, mais il y a des choses qui sont bonnes en lui. Relève-les dans la prière. C'est cela, intercéder. Relève les bonnes choses qui sont en lui. » Et il a complètement changé sa façon de prier. Il a dit, « Seigneur, je te prie pour ton serviteur. Il a été courageux jusqu'à présent. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde avec lui, mais il est fidèle. Il a persévéré. Oh Seigneur, bénis-le, fais-lui du bien. » Et c'est ainsi qu'il a intercédé pour cet homme. Et savez-vous ce qui s'est passé? Au bout d'un certain temps, cet homme a été visité par le Saint-Esprit et son église est passée par un réveil. Ce n'est pas le tout de prier, encore faut-il prier de la bonne façon et sans critiquer dans nos prières. Lorsque tu pries pour ta femme, lorsque tu pries pour tes enfants, lorsque tu pries pour le pasteur, lorsque tu pries pour tes frères, comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries comme un pharisien? Oh Seigneur, tu vois, je suis vraiment un pauvre type. Vraiment, il est malheureux, Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié, vraiment, tu vois tout ce qui ne va pas. Ah oui, tu as eu combien de prières exaucées comme ça? Combien de personnes ont été changées de cette façon? La véritable prière réalise sa propre condamnation soi-même, réalise le fait que nous ne sommes rien, mais que nous désirons le bien de l'autre, la délivrance de l'autre. Oh mon Dieu, même si je ne devais pas être béni moi-même, mais bénis-les, fais-leur du bien. Ça, ce sont des prières qui touchent le cœur de Dieu et qui mettent toutes les puissances des ténèbres en fuite. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Regardez comme cette prière est positive, n'est-ce pas vrai? Comment est-ce que vous auriez prié? Dites-moi. Moi, en tout cas, je sais comment j'aurais prié. Non, mais c'est pas possible. Donne-leur un coup sur la tête à celui-là. Seigneur, fais descendre la foudre, là. Tu vois bien, regarde-le, il est en train de me... Et puis encore, il se moque de moi. Seigneur, donne-lui un bon coup sur la tête, maintenant. Élie, là, allez, donne-lui un coup. S'il te plaît, Seigneur. Tu vois bien que je souffre pour toi. Je suis sûr que j'aurais prié comme ça. Mais bénissons le Seigneur de ce qu'il n'est pas prié comme cela. Il est un exemple pour vous et pour moi. Comment pardonner en priant pour celui qui vous a offensé? En priant pour lui, pas contre lui. Pour lui. Est-ce que vous saisissez ma pensée? Ceci est vital. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle belle prière positive, de foi et d'espérance même pour le plus grand ennemi. Mettez-vous un peu à la place de celui qui écouterait votre prière lorsque vous priez. Lorsque vous priez pour quelqu'un, est-ce que la personne peut venir écouter votre prière? Oh là là, qu'est-ce que vous dites? Arrêtez! Si la personne entendait ma prière à son égard, elle me sauterait dessus. Ah oui, mais c'est ça, bien souvent. Elle me sauterait dessus! Père, pardonne-leur. Ce sont ces paroles qui ont touché les ennemis, vous êtes d'accord? Quelle parole admirable de foi, d'espérance, d'amour envers les ennemis. Mais c'est ça qui touche le cœur. Ces soldats ont dû se dire, mais c'est pas possible. Ce centenier qui était là, mais jamais il a vu un homme mourir comme cela. Mais jamais, jamais. Jamais un homme n'a parlé comme cela. Jamais un homme n'est mort comme cela. Ce n'est pas possible. Certainement, cet homme était fils de Dieu. Et je crois que ce centenier s'est converti. Car pour qu'il déclare que Jésus est le fils de Dieu, il fallait une révélation. Et en acceptant une telle déclaration, il se mettait toute l'armée romaine sur le dos. C'était une question de vie ou de mort pour lui. N'est-ce pas vrai? Et je termine une cinquième merveilleuse pensée de cette prière. Comment pardonner? En faisant du bien à ceux qui vous font du mal. En faisant du bien. Et Jésus lui-même l'a dit dans Luc chapitre 6, faites du bien, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Voyez-vous comment pardonner? Pas seulement en disant, je te pardonne et puis je ne veux plus te voir. Et surtout, je ne veux plus entendre parler de toi. Ça, c'est un pardon négatif qui ne satisfait personne. Et c'est pourquoi vous-même, vous aurez toujours des regrets en pardonnant de cette manière. Mais le vrai pardon, c'est pas seulement pardonner le mal qu'on vous a fait, mais c'est chercher à faire du bien à cette personne. C'est lui donner pas toujours ce dont elle veut recevoir, mais ce dont elle a besoin de recevoir de votre part. C'est donc chercher à faire du bien à cette personne, d'une manière ou d'une autre. Pas toujours ce qu'elle veut ou ce qu'elle aime entendre, mais ce qu'elle doit entendre. Et c'est cela, pardonner, c'est faire du bien, d'une manière ou d'une autre. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Que veut dire le verbe bénir? Bénir veut dire du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Maudire veut dire du mal. Autrement dit, à ceux qui vous disent du mal, dites du bien. Ça, c'est la plus grande victoire. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de la croix. Ça, c'est l'esprit du pardon. Et je termine par cette pensée que j'ai lue un jour. Rendre le mal pour le mal ou le bien pour le bien, c'est humain. C'est humain. Quand on vous fait du bien et que vous rendez le bien, c'est humain. On vous fait le mal, vous rendez le mal, vous dites c'est juste. Il m'a fait une crasse, eh bien je lui fais la même crasse, c'est tout. C'est juste. Il me fait la tête, je lui fais la tête. Ça c'est juste. Il me dit bonjour, je lui dis bonjour, ça c'est juste. Mais il m'envoie promener, je l'envoie promener. Ça c'est juste aussi. Oui, ça c'est humain. Rendre le bien pour le mal ou le mal pour le mal, c'est humain. Mais rendre le mal pour le bien, ça c'est diabolique. Quand quelqu'un vous fait du bien et que vous lui rendez le mal, ça c'est diabolique. Mais rendre le bien pour le mal, ça c'est divin. Surmonter le mal par le bien, nous dit la parole de Dieu. Ça c'est divin. Pardonner, c'est faire du bien. C'est dire du bien à celui qui fait du mal et qui vous dit du mal. Voilà comment vous remporterez la victoire. Et voilà comment le vrai pardon de la croix se manifeste. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, et pour moi le premier. Que Dieu bénisse sa parole. Comment pardonner? Vous le savez maintenant. Prenez la décision de le faire, et Dieu vous bénira. Mais surtout, ne faites pas comme certains qui prennent la décision de ne jamais rien décider. Il y en a qui prennent des décisions de ne jamais rien décider. Mais prenez la décision de décider quelque chose aujourd'hui. Et de pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Que Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, que ta parole pénètre au fond de notre cœur. Sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Merci pour ton exemple du pardon sur la croix qui nous a libérés, Seigneur. Nous qui étions tes ennemis, tu as touché notre cœur. Et maintenant, tu nous dis de pardonner comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Tu nous as donné l'esprit de pardon parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit est un esprit de pardon. Ainsi, Seigneur, il n'y a plus d'excuses, ni de prétextes, ni de justifications devant toi. Tu nous as tout donné pour apporter ce pardon autour de nous. Nous voulons tout simplement obéir et faire ce que tu nous demandes. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu opères en nous et au travers de nous, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et pour la délivrance de tous nos bien-aimés et de tous ceux qui nous ont fait du mal, auxquels nous voulons rendre le bien. Gloire à ton nom. Gloire à ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Alléluia. Gloire à ton nom.
Dans ta maison.